Frères et sœurs bien-aimés, bonjour à tout le monde. Essayons d'imaginer quelque chose. Si c'était nous, comment aurions-nous réagi? Si ça avait été nous, comment nous serions-nous comportés? Mettons-nous un tout petit peu à la place de Jésus. Jésus, avant sa passion, avait de nombreux amis. Il avait de nombreux admirateurs. Jésus avait une foule immense qui venait manger à ses côtés gratuitement. Jésus avait parmi ses amis une catégorie particulière, les plus proches, les apôtres, qu'il avait formés à l'amitié, sans doute en leur disant: on n'abandonne jamais un ami. On ne lâche jamais les corses. Non, quand on est un ami, on ne lâche pas. Effectivement, quand sa passion est arrivée, le contraire s'est produit. Ceux qui profitaient de lui l'ont abandonné. Même ses amis les plus proches l'ont lâché. Seuls quelques-uns eurent le courage de le suivre jusqu'au tribunal. Les autres s'étaient mis très loin, à distance, pour voir comment ça se terminerait. L'un des plus courageux, Pierre, sur qui Jésus pouvait compter, Pierre, l'avait renié trois fois. Si c'était nous, comment aurions-nous réagi? Continuons l'imagination. Imaginons que, sortant victorieux de l'épreuve, surtout que le jugement était injuste, sortant de cette injustice, si nous retrouvions nos amis qui nous ont trahis, si c'était nous, quelle aurait été notre réaction? Moi, je les aurais traités de traîtres. Je les aurais considérés comme des faux amis. Je leur aurais dit de ne plus jamais me chercher. Parce que dans ma vie, il n'y a pas de la place pour les traîtres. Je leur aurais dit cela. J'aurais dit à certains: ne venez plus me voir, ne me demandez plus jamais un miracle, ne venez plus manger à ma table. Si c'était nous, sans doute dans cette perspective humaine, nous aurions réagi de cette manière-là. Nous célébrons la miséricorde aujourd'hui, dimanche, 24 heures, pour célébrer la miséricorde. Pourquoi? Voyons la miséricorde. Comment Jésus réagit? Quand Jésus retrouve ceux qui l'ont trahi, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne la paix. Dans ce texte, nous avons écouté trois fois. Jésus dit: la paix soit avec vous. Une fois, la paix soit avec vous. Deux fois, la paix soit avec vous. Trois fois, Jésus leur offre la paix, sans même qu'ils aient demandé. Dimanche de la miséricorde, Dieu ouvre son cœur, toute sa bonté, toute sa tendresse, il déverse cela à ceux qu'il avait abandonnés lâchement, ceux qui l'ont même renié. Attendez, ce n'est pas fini. Il y en a un dans cette foule qui ne se laisse pas faire. Parmi les 11, son nom c'est Thomas. On précise que c'est un jumeau. Il ne se laisse pas faire. Celui-là n'est pas présent quand Jésus vient offrir la paix. Il n'est pas là. Et quand on lui dit que Jésus est ressuscité, il ne croit pas. Il va compliquer l'affaire. Si je ne mets pas ma main, sa main à lui, Thomas, il veut mettre la main dans l'air, dans les blessures. Thomas, courageux. Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, il veut aller jusque dans le côté de Jésus. Si je ne vois pas, je ne croirai pas. Si ça avait été vous, que Thomas vous ait abandonné et que après cela vous ressuscitez et que vous apparaissez à 10 de vos amis les plus proches. Que les 10 amis donnent le témoignage à Thomas. Et que Thomas dise, je ne croirai pas tant que je n'ai pas vu moi-même. Ça avait été vous. Comment auriez-vous réagi? Moi, je peux vous dire, j'aurais grondé Thomas. J'aurais dit à Thomas, Thomas, tu exagères. Non seulement tu m'as lâché, mais tu fais la philosophie maintenant. Jésus n'abandonne pas Thomas. Jésus n'abandonne pas Thomas. 8 jours plus tard, il revient chercher Thomas. Il sait que Thomas doute. Il vient le chercher. Nous célébrons la miséricorde aujourd'hui. Certains d'entre nous peuvent arguer, peuvent se justifier en disant « Thomas était prudent ». D'ailleurs, la prudence est une vertu. Personne ne le conteste. Être prudent, c'est normal. Si l'on vous dit qu'on a vu quelqu'un ressusciter, vous allez dire, c'est quoi cette affaire? La prudence est une vertu. Mais regardons ça très bien. Les apôtres, les défenseurs de Thomas, regardons ça très bien. Le problème, c'est que il y avait dans les Écritures, à l'époque de Thomas, un certain nombre de textes qui annonçaient la résurrection de Jésus. Deuxièmement, Jésus lui-même avait annoncé et prédit sa résurrection. Deux arguments. Troisième argument, il y avait 10 personnes parmi les amis particuliers de Jésus, les apôtres, il y en avait 10 qui disaient à Thomas, c'est vrai, et nous l'avons vu et entendu. On a dit ça à Thomas, on l'a vu et on a entendu Thomas. 10 personnes qui représentent l'Église portant son témoignage. Alors, nous comprenons que ce n'est plus simplement une affaire de prudence. On se rend compte que Thomas est incrédule. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte, parce que Jésus dit, Thomas, arrête ton affaire. Tu vas trop loin, tu es vraiment un incrédule. 10 personnes ont dit qu'ils m'ont vu, qu'ils m'ont entendu. Et ceux qui me connaissent t'ont dit qu'ils m'ont vu et m'ont entendu. Et tu ne veux pas croire, Thomas, arrête ton affaire. Jusque-là, Jésus ne tourne pas le dos à Thomas, il ne le menace pas. Thomas voulait arriver à la foi par lui-même, par ses propres forces. Thomas a été tenté par une certaine théologie qu'on appelle le pélagianisme. Le pélagianisme, c'est que le croyant pense qu'à un moment donné, il peut faire fi des autres, il peut se sauver lui-même. Ou encore, il peut avancer dans la foi par lui-même. Ou encore, il peut obtenir les grâces de Dieu par la force de son poignet. Ça s'appelle le pélagianisme. Jésus, en ce dimanche de la miséricorde, n'abandonne pas un dur à cuire comme Thomas. Jésus vient le chercher. Ne sommes-nous pas, frères et sœurs, tentés parfois de vouloir nous sauver par nous-mêmes? Ne sommes-nous pas tentés d'avancer dans la foi par nous-mêmes? Un chrétien baptisé qui va à la messe tout seul et qui pense avancer tout seul, sans une équipe, sans un accompagnement spirituel, ne sommes-nous pas tentés? Plus encore, ne sommes-nous pas tentés, à un moment donné, d'abandonner Jésus, de douter même? Ne sommes-nous pas traversés par le doute? Il y a des chrétiens, qui vont à Lourdes, et à Lourdes, ils voient les béquilles des personnes qui sont guéries par l'intercession de la Vierge Marie. Il y a de nombreuses béquilles à Lourdes, des personnes qui sont guéries à l'intercession de la Vierge Marie. Il y en a qui vont à Lourdes, qui voient tout ça et qui ne croient pas beaucoup. Jésus, ce dimanche, dit, qu'est-ce que tu veux encore? Pourquoi doutes-tu? Pourquoi est-ce que tu doutes? Prenons un autre exemple. En commençant par moi. quand on est malade ou quand son projet ne marche pas beaucoup, parfois nous doutons de Dieu. On se demande, est-ce que Dieu est encore là? Est-ce que Dieu m'aime encore? Jésus nous regarde et nous dit, pourquoi est-ce que tu doutes? Parce que dans nos propres familles, nous avons des témoins qui nous disent, c'est vrai, Dieu existe. Nous avons nos grands-parents qui nous disent, Dieu existe. Ton grand-père, même sans que toi, il a fait l'expérience de Dieu et dit, Dieu existe. Il faut faire attention. La maman qui t'a accouché te dit, Dieu existe. Et tu dis, laissez-moi tranquille. C'est comme les apôtres qui avaient dit à Thomas, ils étaient 10, ils ont dit à Thomas, c'est vrai, Jésus est vivant. Et Thomas a dit, je ne crois pas. Frères et sœurs, ne sommes-nous pas parfois durs à l'Église en présence de Dieu? Parce que malgré les preuves qu'il nous donne, nous disons, je ne suis pas sûr qu'il existe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dimanche de la miséricorde, Dieu ne se fâche pas. Il ne se fâche pas. Il ne gronde pas Thomas. Qu'est-ce qui va se faire? 8 jours plus tard, il revient le chercher. Dans l'assemblée, ils étaient l'assemblée des apôtres. Ils s'occupent de Thomas. Thomas avance. Il appelle Thomas par son nom. Le nom, c'est toute une histoire. Avec le doute dans ce nom, avec ses projets, ses déceptions. Thomas avance. Ensuite, il regarde Thomas du fond de l'œil en disant, Thomas, pourquoi est-ce que tu doutes encore malgré les signes que je t'ai donnés? Pourquoi doutes-tu? À la fin, il demande à Thomas, je vois ta difficulté, tu veux toi-même te rassurer. Ok, Thomas, voici mon côté. Mets la main dans mon côté. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La guérison de Thomas. Thomas est libéré de son doute. Dieu guérit ses yeux, ouvre ses yeux. Dès que ses yeux s'ouvrent, il crie le premier, « Mon Seigneur et mon Dieu ah. !» Dimanche, la miséricorde. Dieu donne la grâce. Il donne la grâce en abondance aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle la miséricorde. Dieu multiplie toutes ses grâces. Il y ajoute l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Il envoie l'Esprit Saint. Dimanche, la miséricorde. Dieu vient chercher Thomas pour l'aider à traverser son doute. Vous m'excusez d'être long. Hein. Excusez-moi, je vous demande pardon beaucoup. Mais je vais arrêter bientôt. Donc nous méditons ainsi sur comment est-ce que Jésus va chercher Thomas, il l'aide à traverser son doute. Prions en ce dimanche pour que nous nous laissions porter par le témoignage des croyants. Dans notre paroisse, Père Le Jariel, il est là tous les jours, Père Le Jariel, et il va à l'église pour dire Dieu existe, voilà un témoin, il est là tous les jours, même fatigué, il est là. Celui qui ne croit pas, Jésus va dire, mais qu'est-ce que tu veux encore comme preuve? Dans nos propres familles, comme je disais, nous avons des parents qui n'ont jamais lâché malgré leurs difficultés. Et si quelqu'un doute, Jésus dira, mais qu'est-ce que vous voulez encore comme preuve? Prions en ce dimanche pour que le Seigneur nous apporte son Esprit Saint qui vienne nous chercher et nous toucher comme il a cherché Thomas. Amen.